Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Quelquefois, les idées, les sujets qui guident nos réflexions dans ce podcast nous arrivent de zones inattendues de l'actualité, d'infos qui n'ont pas vraiment l'air d'en être, mais qui cachent en arrière-plan de vraies questions. Par exemple, on apprenait tout récemment la destruction annoncée d'un bâtiment qui a fait les grandes heures de la télé-réalité à la française, la maison des secrets de Secret Story, où étaient claquemurés les candidats de ce jeu de manipulation qui, de 2007 à 2017, a squatté le petit écran. A priori, on s'en cogne du devenir de cette baraque. Mais en réalité, la symbolique est intéressante. Avec cette vraie fausse maison, c'est la fin d'une certaine histoire de la télé française, celle commencée en 2001 avec le Loft, dont il reste énormément de codes, de personnages, de façons de concevoir le divertissement qui, eux, semblent pour l'heure à l'abri des coups de pelleteuse et auxquels nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Presque 20 ans se sont écoulés depuis le démarrage de Love Story en 2001, suffisamment de temps pour que le concept de télé-réalité, regardé avec curiosité, on y reviendra par les intellectuels de l'époque, soit devenu un sujet d'étude pour les chercheurs d'aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la sociologue des médias Nathalie Nadeau-Albertini, à qui j'ai passé un coup de fil pour qu'elle retrace les grandes lignes des évolutions de la télé-réalité depuis justement le phénomène polémique du Loft.
Pour les producteurs, il y a la question de l'après-Loft, c'est-à-dire que on ne peut pas refaire une rupture des normes, elle a déjà été faite. Donc, il faut trouver autre chose. Et donc, les producteurs vont faire deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont essayer de répondre aux critiques en les apaisant. Donc, par exemple, on va sortir la Star Academy. Donc, la Star Academy, on dit « Ah non, mais ils ne font pas rien ». Parce que l'une des choses qui était reprochée au Loft, c'était que c'était des personnes qui ne faisait rien en fait de la journée. Et donc, on dit, mais là, on va mettre en évidence un talent, on va aider des talents à éclore. Et puis, on a un autre pan de la télé-réalité qui, en fait, va intégrer les critiques en faisant un élément de définition. Je vais vous prendre la ferme célébrité. Donc, la ferme célébrité, c'est en 2005, donc c'est 4 ans après le Loft, c'est sur TF1. On prend des personnes qui sont un petit peu connues. On leur demande de vivre pendant un certain temps dans quelque chose qui ressemble à une ferme version 19e siècle. Et ce qu'on montre, c'est des personnes qui vont souffrir, parce que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Donc ça, on reprend, en fait, l'une des critiques qui avait été faite au Loft, c'est-à-dire la critique du sadisme. Et on dit, vous avez raison, on est sadique, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'en même temps, on désamorce en disant « Attendez, ces personnes-là que vous voyez souffrir, en fait, ce qu'elles font, elles font une sorte de transaction éthique. C'est-à-dire qu'elles acceptent de souffrir momentanément pour, en fait, gagner de l'argent pour une association qui, elle, va aider des personnes qui ont été beaucoup moins favorisées par la vie et qui souvent étaient en situation de handicap lourd. » Donc, il y a cette idée, d'un côté, on dit oui, vous avez raison, c'est sadique, mais en même temps pour la bonne cause. Donc finalement, vous avez là, en fait, la télé-réalité va se structurer en suivant en fait les critiques qu'on lui a adressées, à la fois en les validant et en les démentant. Et puis, ça c'est le premier temps. Et le deuxième temps de la télé-réalité, c'est le tournant des anges. Donc, le tournant des anges, si vous voulez, ce qui devient fondamental avec les anges, c'est de faire un nœud narratif avec les différentes, entre les différentes dimensions de télé-réalité dont les candidats sont issus. C'est-à-dire que finalement, à partir de cette émission, on n'a plus d'un côté la Star Academy, de l'autre La Ferme, et de l'autre Secret Story, et puis de l'autre encore une autre émission, et encore une autre émission. Finalement, on ouvre l'histoire de la télé-réalité et on en fait une espèce de grand feuilleton qui en fait se répond d'émission en émission, donc non seulement d'émission en émission, mais aussi en intégrant le phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en fait, les candidats, quand ils vont sortir d'une émission de télé-réalité classique, Secret Story, ils vont communiquer après sur les réseaux, vont communiquer entre eux sur les réseaux, et ils vont continuer l'histoire sur les réseaux. Quelque part, ils commencent à en faire un feuilleton. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, la focale n'est plus sur une émission comme pour le Loft, où on disait le Loft. Non. C'est sur un candidat. C'est-à-dire que c'est plus une émission qu'on va suivre, c'est un candidat. Là, pour moi, on est dans le deuxième temps de la télé-réalité, puisque c'est le candidat qui devient le centre de l'attention.
Est-ce qu'il en reste vraiment concrètement quelque chose à la télévision, ou est-ce que finalement ce ne sont pas que des vestiges, quelque part, de cette télé, et que tout le reste a migré justement vers le numérique, vers YouTube, vers les stories Instagram, vers les stories Snapchat, vers d'autres incarnations toujours en images, mais qui ne se font plus par la télévision?
C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une histoire que l'on peut penser en termes de télévision. On est dans une histoire transmédia qui tantôt va passer par la télévision, tantôt va passer par les supports numériques. Ce qui donne aussi cette impression de vestige, c'est que finalement, avant, on avait l'habitude de penser, voilà, c'est à la télévision et après, éventuellement, sur les réseaux. Là, c'est partout. C'est vraiment les deux en même temps et ça semble être au même niveau. Voyez, vous avez les candidats qui peuvent raconter leurs propres histoires, ce qui est assez nouveau parce que effectivement, dans la télévision classique ou dans les médias classiques,
vous n'avez pas la maîtrise de la narration.
C'est ça, il n'y a pas la maîtrise de la narration. Alors que là, il y a cette maîtrise de la narration. Donc on est dans une autre façon de raconter des histoires, si vous voulez.
Et au-delà de ça, il n'y a même presque plus besoin, quelque part, des personnages créés par la télévision, des candidats, puisque, quelque part, avec un smartphone, n'importe qui peut devenir un acteur de cette espèce de reliquat ou de satellite de ce qu'a été la télé-réalité.
Oui. D'une certaine façon, oui. Mais après, effectivement, tout le monde peut, mais tout le monde n'y arrive pas.
Oui.
Donc la question, c'est pourquoi? En fait, quand vous regardez, ça suppose, en fait, de la part des personnes qui font ça, une capacité à la fois de mise en scène de soi et de narration de soi-même. Et en même temps, de comprendre quelles peuvent être les attentes d'un public potentiel.
Oui.
Ça suppose quand même un certain nombre de compétences. Et après, ça suppose aussi une capacité d'adaptation aux critiques.
C'est ce qui explique sans doute aussi peut-être que le fait que certains personnages ou certaines stars du web ou du monde numérique finissent quelque part par s'entourer d'équipes, de professionnels et opèrent une professionnalisation et se rapprochent finalement de ce qu'a pu être la télévision, une certaine forme de télévision, au fur et à mesure, même en ayant commencé tout seul.
Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a un moment où il y a une professionnalisation de l'activité. Donc après, ça semble presque naturel d'avoir des professionnels qui vont aussi les aider à maximiser leur potentiel quelque part.
En 2001, moi j'étais en seconde et en bon littéraire, je vomissais l'idée même du Loft. Et dans ma chambre d'ado, j'avais affiché une citation qui disait ceci. « Brisez les écrans, mes élèves, brisez ces carcans neufs qui n'auront de cesse de vous amoindrir. » Je l'avais trouvé dans le tout premier essai consacré à la télé-réalité paru en France. Il s'appelle « I Loft You ». Il était signé par un jeune prof de philo, Vincent Cespedes, à qui j'ai donc proposé de venir discuter de ces quasi deux décennies qui nous séparent désormais de Loana et consorts et de la perception qu'il a des changements que le succès de ce type de programme a provoqué dans notre société.
Alors oui, on a presque 20 ans de télé-réalité, en tout cas 20 ans dans le monde, puisque ça a commencé en 99 et en France en 2001. On a eu 20 ans d'éducation à la compétition individuelle généralisée, parce que c'est vraiment le programme de la télé-réalité. c'est on n'arrive pas à faire du groupe, puisque dans la règle même, il s'agit de s'auto-éliminer, enfin s'éliminer les uns les autres. Donc le groupe, la fraternité, la solidarité, la république, la démocratie, tout ça, c'est des foutaises. Seul compte l'individu livré en termes d'agressivité, de compétition et de ruse et de perversité à une fausse communauté sympathique qui veut en fait nous éliminer. Donc ça, c'est 20 ans d'éducation. Voilà, on a balancé ça dans la tête, tout ça pour vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, hein, comme disait Patrick Lelay, le responsable de TF1, qui avait osé cette phrase-là. Mais tout ça a été balancé dans les cerveaux. Qu'en est-il, voilà, quel impact ça a eu? J'ai analysé ça au début, j'ai vu qu'il y avait une tentative d'hypnose, d'une certaine forme de cri d'injustice de la jeunesse. Et c'est vrai que, de fait, en 20 ans, la jeunesse s'est très peu révoltée. Et c'est le consumérisme qui a gagné les consciences. Donc je ne dis pas que c'est la télé-réalité qui est responsable, mais je dis qu'elle a atténué, amoindri, c'est le mot que j'utilisais, les contre-pouvoirs.
Et justement, là, elle a migré, cette télé-réalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vraiment une télé-réalité, mais une forme de multi-réalité, c'est-à-dire qu'on retrouve ces codes un peu partout, notamment, je pense, dans la mise en scène de soi qui est impulsée par les réseaux sociaux. Ça, c'est sans doute un héritage aussi de cette fabrication de la télévision.
Ah oui, tout à fait. Je disais déjà à l'époque que l'écran est très hypnotique par le vide qu'il manifeste et puis le visage nu des fameux lofters ou de voilà, et il y a une sorte de fascination d'un visage nu qui dit on, peu importe ce qu'il dit, on est fasciné par un visage. Eisenstein, un grand réalisateur de cinéma d'avant, parlait de la géographie fervente d'un visage qui s'étale devant l'écran. C'est vrai, la géographie fervente, n'importe qui est beau, enfin voilà. Donc il y a cette sorte d'hypnose très narcissique de oh, la jeunesse est belle, et puis la jeunesse n'est pas rebelle. C'est ça aussi le spectacle de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on montre une jeunesse soumise à la production, soumise dans le contrat, soumise. Jamais vous avez un coup de poing dans la figure du présentateur par un mec qui en a marre de se faire humilier. Donc il y a eu une sorte de sadisation organisée, programmée de la jeunesse. Il y a une délectation jouissive de voir la jeunesse punie. Je vous rappelle que sur le service public, on a eu le pensionnat de Chavagne en 2004. C'était quand même le pensionnat des années 50 où on sadisait les petits jeunes écoliers. Voilà, on a ce truc un peu, ce climat absolument pourri qui relève de ce que j'appelle dans Oser la jeunesse le complexe de Chronos. La délectation des vieux de bouffer leur jeunesse. Chronos est le dieu du temps qui dévore ses rejetons. Et bien là, il y a quelque chose de l'ordre de on consomme du jeune soumis, du jeune pieds et poings liés, du jeune qui dit oui-oui, des jeunes bénis oui-oui. C'est-à-dire qu'une vision de la jeunesse sans la moindre once de subversion. Voilà ce qu'on a donné aussi dans la tête des plus âgés. Regardez cette jeunesse qu'on a, c'est la plus conne du monde. Et il y en a plein qui ont cru à ce message-là.
Mais du point de vue du regard que les plus jeunes téléspectateurs ont pu porter sur ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement un peu... Enfin, qu'ils ne sont pas dupes, quelque part, de ce qu'on leur propose et de l'irréalité, voire de la fausseté totale de ce qu'ils peuvent regarder.
Alors, dès mon livre « I Love You » en 2001, j'ai dit « Elle n'est pas dupe ». J'étais prof de philo à l'époque, j'avais donné un devoir à mes élèves et j'ai bien vu qu'ils avaient le second degré, comme pour la publicité. La publicité, personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est de la pub. Et pourtant, la publicité marche. Les budgets de la publicité, c'est des millions et des milliards d'euros. Donc, ça marche. On n'est pas dupe, mais ça marche quand même. Il y a une imprégnation du message publicitaire, même si on sait qu'on n'est pas dupe et que c'est que de la pub, etc. La télé-réalité, c'est pareil. N'oubliez pas, elle est connectée à la pub. Elle ne marche que parce qu'elle est rentable. Elle n'est pas chère, pas besoin de payer des scénaristes, pas besoin de payer des acteurs, pas besoin de rien. C'est l'émission la moins chère du monde qui nous redonne un petit parfum d'Hélène et les garçons de AB Productions, c'est-à-dire un truc un peu maladroit. Voilà. Donc, c'est une façon. Sans scénariste, sans vision artistique, de faire quelque part un feuilleton. C'est quand même ça, c'est un truc de capitaliste pur, comment on fait le maximum de profit avec le minimum de moyens. Mais elle n'est pas dupe, mais ça s'imprègne. Ça s'imprègne partout, à tous les niveaux, et vous aviez raison, j'ai pas répondu à votre question. Mais c'est vrai que les codes aujourd'hui du journalisme sont imprégnés de télé-réalité. C'est vrai que les selfies, c'est très télé-réalité. Ce qui a tué la réalité, finalement, c'est en fait l'explosion de la télé-réalité dans les vies quotidiennes. C'est-à-dire que nous sommes maintenant nos propres héros de télé-réalité. Quelque part, c'est l'avènement de la télé-réalité, la pénétration moléculaire de la télé-réalité dans nos quotidiens fait la mort de la télé-réalité officielle à la télé.
Un des trucs les plus fascinants quand on repense à ce qu'a été l'arrivée du loft et ce qu'a été la, on va dire, l'irruption de la télé-réalité dans les chaînes de télévision, c'est à quel point, j'ai envie de dire, il y avait une quasi-unanimité pour dire que c'était de la merde, mais que ça a quand même fonctionné. Est-ce que quelque part, on n'annonçait pas aussi là le fait que les voix d'autorité que pouvaient être donc les intellectuels, les savants, les chercheurs, commençaient déjà à ne plus être entendus?
Pas du tout.
Ouais.
Voilà. Pas du tout, parce que moi j'ai toutes les coupures de l'époque, puisque j'ai travaillé sur ça, et je peux vous dire que quasiment tous les intellectuels étaient absolument émerveillés. Ouais. Émerveillés. J'ai fait toutes les confs qu'il fallait faire. Hein. J'étais dans tous les cercles, puisque j'ai écrit le premier livre sur la télé-réalité en français. Donc j'étais invité partout, j'étais assez colérique à l'époque, et je m'énervais à chaque table ronde. Ouais. Les Tisserons étaient psychanalystes formidables, François Jost formidable, incroyable, intéressant. Il n'y a que Séguéla qui parlait de... Séguéla, hein, l'homme de la publicité, qui disait c'est une désertification culturelle, hein, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais tout le monde était content. Michel Field faisait son analyse rousseauiste sur le loft, tout le monde essaie. Et le seul truc, attention, le seul petit warning allumé, c'était « Mon Dieu, les lofteurs vont souffrir ». C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout une vision d'éducation des téléspectateurs. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont tous été dupes de ce nouvelle expérience sociologique. Ils nous présentaient ça comme ça. Trois fois la une du monde. Vous croyez que c'est critique? Trois fois la une du monde. Donc, tout le monde était... J'étais la seule voix dissonante, c'est pour ça qu'on m'invitait d'ailleurs, pour critiquer, et ils ne comprenaient pas que ma critique, c'était en termes d'éducation d'une génération, et non pas « les pauvres lofteurs vont-ils se suicider dans les chiottes ?» Parce que c'est ça qu'ils nous disaient. Mm. Il y avait quand même, dès la première émission, deux psys, enfin, une psychanalyste et un psychanalyste, un psychiatre, qui étaient là pour vérifier que ça n'allait pas se suicider dans les chiottes, avec des caméras dans les toilettes. Donc on en était là. Mm. Là, ça montre la faiblesse des intellectuels venant pour la plupart du monde universitaire qui n'ont rien capté. Et là, quand je vois les universitaires essayer de faire de la philo, essayer de penser le monde d'aujourd'hui, il se plante à chaque fois. Enfin, c'est quand même spectaculaire, cette déconnexion qu'on a des élites intellectuelles par rapport à des phénomènes d'embrigadement et de conditionnement capitaliste.
Vous avez eu la sensation de ne pas être entendu à l'époque, d'être un peu tout seul, de batailler, d'être un peu le Don Quichotte quelque part cette télé-réalité?
De fait, je l'étais. Voilà, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je sorte du loft moi-même, donc j'ai fait mon deuxième livre sur les violences urbaines, ça n'avait absolument rien à voir. Quoique, moi, je ne prêchais pas dans un désert, j'avais une ligne qui me semblait évidente, et j'étais très étonné que personne embraye le pas, quoi. Alors, ils l'ont après embrayé plus tard, mais c'est resté très mou, parce que c'était un pouvoir financier énorme, vous voyez. Le monde intellectuel est très soumis à l'argent, hein. Les colloques, tout ça, ça coûte cher, et on gagne notre argent en conférences. Donc, si vous commencez à dire du mal de puissance, c'est compliqué pour les conférences.
Vous mentionnez les violences urbaines, qui était le thème du deuxième livre que vous avez signé à l'époque. Justement, ça me fait penser à ce qu'on se disait au début, que sur l'absence, on va dire, quelque part, de grands mouvements de manifestations, de protestations de la jeunesse, il y a quand même eu 2005. Ça n'était pas une manifestation au sens strict, c'était un cri de colère pur et dur. Il y avait donc quand même encore, on va dire, une jeunesse qui pouvait se rebeller, mais qui ne se rebellait plus comme le faisaient on va dire, leurs prédécesseurs, qui ne descendaient pas forcément dans la rue avec des slogans. C'était plus les mêmes types de protestations.
Ah, mais tout dépend du slogan. Ouais. C'est-à-dire que manifester de la colère, c'est bien, mais sans slogan, ça sert à rien. Et il y a eu une absence de slogan presque pour la première fois depuis les mouvements de protestation des jeunes. Pas de mots. Et ce que leur a dit, je crois que c'était Romano, je ne sais plus qui, un politique, leur a dit, vous ferez mieux de regarder la Starac, la finale de la Starac, plutôt que d'être dans la rue. Voilà. Donc vous voyez, c'est complètement lié, quoi. Plutôt que, soyez hypnotisés, les gars, restez hypnotisés. Et les Gilets jaunes, c'est pour moi la grande nouveauté des Gilets jaunes, même si c'est pas tellement relayé avec les banlieues, tout ça, c'est que tout d'un coup, on a des mots maladroits, etc. Mais on a des mots d'une puissance radicale. Le suicidez-vous, tout le monde a pleuré oh mon Dieu, on dit aux flics, suicidez-vous. Ministère Hammer, il disait quoi? Réécoutez du rap de Ministère Hammer sur les flics et vous voyez un peu le truc. Donc c'est la même veine. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la répression monte son visage arrogant et dit oui, on vous réprime et on aime ça et on jouit de vous réprimer, mais à un moment, il faut être radical au niveau du verbe. Et ça va revenir. Il y aura d'autres mouvements comme ça, parce que le capitalisme arrive en bout de course. C'est plus que la télé, c'est le capitalisme qui arrive en bout de course. En 2001, quand je disais il faudrait sortir du capitalisme, on me prenait pour un anarchiste fou, etc. Maintenant, je pense que tous les jeunes, ils sont conscients de ça, qu'il faut sortir du capitalisme. Donc l'avancée, elle est réelle et elle est est politique, l'avancée. Mais comment on fait ? C'est sur le comment on fait qu'on risque de régresser. Parce que la case qui consiste à dire il faut jouer le jeu et de l'intérieur, mais non, de l'intérieur, que dalle. Donc il faut trouver des techniques de sabotage intellectuel conséquentes. Et la télé-réalité nous montrait qu'en fait, le système n'est pas sabotable. La leçon de la télé-réalité, c'est regardez, il y a une règle, c'est le règlement, et ce n'est pas sabotable. La seule fois où ça a été saboté, c'est quand, à la fin du premier Loft, tout le monde était débutant, y compris la prod. Ils ont pris Castaldi, le présentateur, ils l'ont mis dans la piscine, c'était pas prévu. C'est la seule rébellion réelle qu'on ait eue, mais en fait, c'est ces genres de rébellion qu'il faut essaimer pour changer vraiment la donne, changer le monde.
Et si, pour terminer, le sabotage de l'intérieur n'est pas possible, ça reste toujours faisable de l'extérieur, par l'expérimentation, les alternatives, les propositions en dehors des normes, tant de sujets qui bien souvent nous intéressent ici et dont forcément on reparlera tout prochainement. Merci à Nathalie Nadeau-Albertini, à Vincent Cespedes pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.